Bon, vous m'autorisez à enlever mon masque ? Je suis tout seul, hein, y a personne autour. Hein. C'est bon. On pourra nettoyer après s'il faut. Ah, ça fait du bien. Moi, vous me voyez en entier, moi je vous vois à moitié. C'est un peu triste, hein. Vous étiez plus beau avant. Hein. Ça, je vous l'assure. Moi, ça résonne beaucoup, non ? Voilà, très heureux d'être là, de voir que ben, y a du monde, et parce qu'on arrive à s'organiser, et on sait qu'il y en a d'autres aussi, d'autres membres de l'Église qui nous écoutent et qui nous regardent par les moyens modernes, les moyens techniques. Parce que l'Église continue à vivre, parce que nous continuons à être une communauté qui, par des moyens divers, ça nous fait toucher les doigts. Vous savez, souvent, on prie pour l'Église au bout du monde, puis c'est un peu irréel, quoi. Ben là, on est un petit peu dans des situations semblables. On peut prier pour des gens, on les connaît mieux, mais on sait qu'ils ne sont pas là. On imagine qu'ils nous voient, si la connexion est bonne, mais ça donne un peu une idée. Et avant de commencer, avant de lire un premier texte, je voulais partager avec vous un texte que j'ai reçu parmi les nombreux messages qu'on reçoit sur Internet, qui était écrit par un pasteur, Alain Arnoux, que je ne connais pas par ailleurs. Et en fait, il a écrit ça, vous savez, le dimanche 15 mars, le fameux dimanche où on nous a annoncé que c'était le lockout complet et confinement, etc., etc. Et le titre de ce texte, et ça rejoint des choses qui ont été dites ce matin, « Dieu nous parle-t-il plus fort ?» Est-ce que Dieu parle plus fort parce que nous sommes malheureux, quoi, ou malheureux, ou en tout cas privés d'un certain nombre de libertés auxquelles on était très habitués. Juste quelques morceaux de ce texte qu'il écrivait là, qui m'ont parlé. Un temps bizarre nous est imposé. Nous ne savons pas jusqu'à quand, et c'est encore vrai aujourd'hui. Hein. On croyait pouvoir en être sortis, puis bon, apparemment la vague nous rattrape. Il va falloir nous adapter. Et si ce temps nous était donné ? Donné aussi pour nous faire réfléchir à notre manière de vivre, de travailler, de rencontrer les autres, de réfléchir, de prier dans les temps ordinaires. Ce temps imposé ou ce temps donné que nous n'avons pas d'habitude ou que nous remplissons le plus possible pour ne pas nous retrouver face au vide ou face à l'essentiel. Et il cite la prière de Michel Coat, qui était un prêtre catholique, qui a écrit quelques très belles paroles. Quand j'étais jeune, on utilisait souvent les textes de Michel Coat, donc ça remonte à un moment déjà. « Seigneur, j'ai le temps, j'ai tout mon temps à moi. » Et en ce moment, quelque part, on a du temps qui est libéré, en tout cas pour ceux qui sont en télétravail et qui restent à la maison. « Tout le temps que tu me donnes, les années de ma vie, les journées de mes années, les heures de mes journées, elles sont toutes à moi, mais à moi de les remplir tranquillement, calmement, mais tout entière, jusqu'au bord, pour te les offrir. » Je ne te demande pas, Seigneur, le temps de faire ceci et puis cela. Je te demande la grâce de faire consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse. C'était la prière de Michel Coat. Et donc, continue. Dieu nous parle-t-il plus fort en ce moment, en venant perturber notre tranquillité et celle de tous les humains par cette pandémie ? Est-ce que Dieu veut rappeler aux hommes et aux femmes qui croyaient avoir tout prévu et tout maîtrisé qu'en fait, ils ne sont maîtres de rien, même pas de leurs inventions ? Dieu se sert-il des malheurs et des peurs pour venir casser les protections que nous mettons peut-être contre lui autour de nos vies et de nos secrets ? Dieu parle-t-il plus fort en ce moment parce qu'on ne l'écouterait pas dans les temps tranquilles ? Peut-être, dit ce pasteur, je ne l'exclus pas, mais je n'oserais pas le dire de manière trop assurée. Je suis assez d'accord avec lui. Bien audacieux qui pourrait vraiment le dire, personne n'est dans les secrets de Dieu. Et méfions-nous des propagandes simplistes de gens qui peut-être pensent qu'en se servant des malheurs des hommes, des épidémies, des tsunamis, des catastrophes, on a l'explication de la présence de Dieu. De toute façon, dès que ça va mieux, les hommes oublient et se dépêchent de retrouver leurs habitudes. Et dans les temps de malheur, les hommes savent aussi très bien essayer de se mettre à l'abri de la parole de Dieu en se jetant dans le religieux, dans les rites, dans un certain nombre de subterfuges. Alors Dieu parle-t-il plus fort en ce moment ? Je crois que l'important est de savoir que Dieu nous parle fort et qu'il parle fort à ce monde, même dans les temps normaux et tranquilles, et que l'homme essaye de se mettre à l'abri de sa parole par la religion, comme par l'indifférence, comme par la vie qu'il mène. Entre Dieu et l'homme, celui qui n'écoute pas, c'est l'homme. Celui qui se cache, c'est l'homme. Celui qui n'exauce pas l'autre, c'est l'homme. Dieu parle-t-il plus fort en ce moment ? À nous, oui, en tout cas. Et c'est ce qui a été aussi rappelé ce matin, pour nous dire que ce que nous confessons, ce que nous proclamons, ce que nous chantons dans les temps tranquilles, souvent un peu en vase clos, hein, entre nous, parce qu'on est bien, et dans l'indifférence de nos contemporains, eh bien c'est vrai, ça reste vrai, même dans les temps d'incertitude et de peur. C'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour tous, et que c'est à nous de le leur dire. Alors Dieu parle-t-il plus fort en ce moment ? Peut-être, pour nous appeler à ne pas jouer à cache-cache dans les temps normaux, et pour nous demander vraiment de faire entendre au monde qui nous entoure la forte parole que Dieu lui adresse en tout temps, dans les temps tranquilles comme dans les temps d'angoisse. Je trouvais ce texte assez beau et moi il m'a parlé sur la façon dont on peut vivre les temps que nous vivons aujourd'hui et qui sont sûrement pas des temps que nous avons choisis, mais que Dieu nous donne de vivre, Dieu donne de vivre à l'humanité. Qu'en ferons-nous, chacun pour soi ? Je vous invite à la prière. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, que tu puisses continuer à nous parler, tu le fais déjà, tu le fais tout le temps, mais tu le fais particulièrement quand nous sommes rassemblés en Église, et depuis que nous sommes là, tu as dit déjà beaucoup de choses à nos cœurs, que nous puissions continuer à nous reposer sur toi. Amen. Alors je vous propose de lire une parabole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21. Écoutez une parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il y creusa un pressoir, il y bâtit une tour et il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons l'héritage ». Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Alors ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables ». Et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront des fruits en la saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une merveille à nos yeux. J'arrête là la lecture. Alors après, il y a d'autres choses qui vont être échangées. On est dans une période de la vie de Jésus où l'hostilité va grandissant. Et pour les autorités religieuses, il se met en faute de plus en plus et on essaye de le piéger. Il s'est pris pour le Fils de Dieu, quelle audace, il faut donc le punir, voilà, il le cherche. Mais Jésus continue à accomplir ce pour quoi il est venu. Il entre dans Jérusalem en roi conquérant. Il y a un mouvement de foule gigantesque. Il va dans le temple juste après, il chasse les marchands pour... bien montrer quelles sont ses priorités. Les anciens du peuple essayent de venir lui tendre des pièges, il refuse de répondre, il dit, bon, voilà, vous demandez un signe, ben, il vous en sera pas donné d'autre que ceux que vous voyez partout. Bref, ça chauffe. Et voilà cette parabole que Jésus raconte. Alors, hein, vous avez vu le contexte, un propriétaire, un investisseur, il investit dans une vigne qu'il équipe, il met tout ce qu'il faut, puis après il sous-traite le travail à d'autres. Quelque sorte une belle image de Dieu, non ? Dieu qui inlassablement investit dans l'homme. Inlassablement Dieu investit. C'est ce que toute la Bible nous raconte, malgré la chute, malgré le déluge, malgré la tour de Babel, malgré les trahisons diverses. Toujours Dieu parle, il parle fort, comme on l'a dit juste avant, parce que Dieu veut à la fois investir dans l'homme, c'est le rôle qu'il nous donne d'agir en son nom, et puis en même temps de nous laisser le faire librement. C'est ces deux objectifs-là que Dieu poursuit avec nous. Et vous avez lu avec moi dans la parabole comment ça se passe. Bon, voilà, on fait ce qu'il faut avec la vigne, puis on arrive au mois de septembre, et au mois de septembre, ça va être les vendanges. Et donc, naturellement, le maître veut récupérer son bien, si j'ose dire. Et vous avez vu la fin tragique. Les vignerons veulent prendre la place du maître, veulent prendre la place de Dieu, comme la Bible nous le raconte, comme à Éden, comme à Babel, comme dans nos vies parfois peut-être, quitte à tuer, quitte à commettre l'irréparable, quitte à se dire, oh là là, vous savez, comme dans la parabole des talents, là, le troisième homme, celui qui a reçu qu'un seul talent, vous lirez dans Matthieu 25, qui dit, ouais, je sais que tu es un homme dur, hein, donc je ne te fais pas confiance, et donc je vais prendre le pouvoir moi-même, parce que comme ça je vais mener mes affaires sans tenir compte de toi. Et la parabole répète une fois, deux fois, trois fois. Hein, c'est à chaque fois, ils prennent les uns, ils les battent, ils en tuent, enfin, c'est très violent. Et ça accentue à la fois la détermination des vignerons à refuser le rôle qui leur était donné par le contrat qu'ils avaient sans doute dû signer quand ils ont pris en fermage cette terre, etc. Et donc leur refus, leur détermination à refuser de reconnaître ce qu'ils doivent donc au propriétaire. Et puis en même temps, et moi c'est ce qui me frappe surtout, c'est l'obstination du propriétaire à leur donner une première chance, puis une deuxième chance, puis une troisième chance. Et là encore, ça rappelle d'autres textes de l'Évangile, cette parabole du maître infatigable, qu'on appelle souvent les ouvriers de la 11e heure, où en fait on voit que jusqu'au bout, le maître va proposer à des gens qui sont dans la difficulté de rejoindre le travail et de rentrer dans son œuvre et de participer à ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et alors comment réagissent les auditeurs de Jésus? Vous l'avez lu, c'est pas de pitié, œil pour œil, dent pour dent. Ils ont péché, il faut qu'ils payent, et puis la faute est grande, donc la punition sera grande. Donc allez hop, on zigouille tout le monde, c'est leur réaction. Et je crois que, pour moi en tout cas, et je suis certains anciens qui ont eu la même interprétation, la pointe de la parabole, c'est que Jésus ne les suit pas là-dedans en fait. Non seulement il ne reprend pas à son compte, oui, vous avez raison, on va tous, hop, comme ça, une vengeance qui aurait pu paraître légitime, hein. Il y avait une faute grave qui avait été commise et qui mérite une punition. Et Jésus les amène à un véritable renversement. Non seulement le propriétaire, symboliquement Dieu, ne va pas chercher à se venger, mais il annonce, et Jésus finit son histoire en annonçant une inversion radicale. Ce que l'homme rejette, la pierre que les gens ont rejetée, elle va devenir la pierre d'angle. Ce que l'homme rejette, ce message d'amour de Dieu, qui nous donne ce dont nous avons besoin, qui nous laisse libres d'en user, même parfois si nous faisons les pires des bêtises, ça devient la pierre d'angle, ça devient le fondement, parce que c'est Dieu qui va transformer tout cela. Et l'apôtre Paul dit des très belles phrases où il dit que là où la faute abonde, la grâce surabonde. Alors c'est difficile pour nous de comprendre ça, parce qu'on est, dans un pays de droit, et donc il y a des équivalences entre les fautes et... on entend dire quand quelqu'un est mis en examen, tout de suite les journalistes disent « et il risque, parce qu'ils ont regardé le code pénal, il risque 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende, etc. » Voilà, on fait des équivalences comme ça, et ce que Jésus nous montre là, c'est que le plan d'amour de Dieu pour nous, c'est justement non. Non, c'est pas... La faute ne se traduit pas par une condamnation. Et là, c'était la proposition des auditeurs de Jésus était radicale. La condamnation, c'était définitif. Alors que le message radical de Jésus, c'est tout le mal que l'homme fait parce qu'il s'arroge le droit de décider, de juger, de penser être le seul à décider ce qui est conforme, non conforme, acceptable, non acceptable, ce qui est bon, ce qui est mal. Et Jésus leur dit tout ça, ça va se retourner par la grâce de Dieu parce que Dieu veut transformer toute chose pour le bien. Et c'est ce message de la grâce de Dieu qui est donné à plein poumon, si j'ose dire, et que la Bible nous raconte de la première à la dernière page. Pourtant, quand Jésus parle, les apparences sont plutôt contre lui. On approche de la passion, ce qu'on appelle de la passion. L'hostilité va aller grandissant. Et de plus en plus, les gens autour de lui vont continuer à se heurter à lui jusqu'à le mettre à mort. Et je pense qu'ils vont même plus penser à cette histoire que Jésus leur a racontée, en se rendant compte qu'ils se mettent eux-mêmes dans la position des vignerons qui n'acceptent pas que le Fils vienne et qu'ils le mettent à mort. Dieu parle, il parle fort, il parle sans cesse, mais nous sommes sourds. Les anciens, les pharisiens, les gens qui étaient là en opposition avec lui étaient sourds. Mais Dieu passe son temps à inverser, à transformer le mal en bien. Et on a chanté tout à l'heure « Merci pour la croix ». La croix, c'est, aux yeux de beaucoup de gens, c'est une absurdité complète d'avoir confiance en quelqu'un qui n'a pas été foutu de se défendre ou de se sauver et qui a fini par être cloué à la croix. C'est une absurdité, et même, voilà, certains textes du Nouveau Testament nous le disent, mais cette absurdité-là, elle se transforme. Et la pierre que vous avez rejetée, elle devient la pierre d'angle, elle devient là, ce sur quoi tout peut se construire. Je vais peut-être lire un des versets de l'apôtre Romain au chapitre 5. Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait-il le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si nous, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors encore plus étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dieu passe son temps à transformer le mal en bien. Dieu passe son temps à dire, vous faites le pire. Le pire arrive, mais moi je continue à tendre la main. Et moi je continue à transformer le mal en bien. En ce moment, je suis en train de lire, non pas l'Apocalypse, mais plutôt la Genèse. Voilà, je suis à l'autre bout. Bon. Et j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, l'histoire de Joseph. Vous connaissez Joseph, hein, un des enfants de Jacob. Cette longue histoire qui nous montre à plusieurs reprises que d'un mal peut venir un bien, que Dieu transforme quelque chose qui a priori paraît horrible en un bien. Hein, Joseph est... ça commence par du mal. Joseph casse les pieds à ses frères en se prétendant être le kek, hein, et en leur faisant étalage du fait qu'il va devenir le meilleur. Mais du coup, un mal arrive, il l'enlève, ils le vendent comme esclave, et ils vont mentir pendant des années à Jacob en prétendant que Joseph a été tué par une bête sauvage. Et puis Dieu transforme ça. Joseph devient le vice-roi d'Égypte ou quelque chose comme premier ministre ou quelque chose du genre. Et il fait en sorte que Jacob et toute sa famille puissent trouver subsistance, d'abord en venant chercher des biens pour tenir pendant la famine, et puis finalement pour venir s'installer dans un pays très riche, où ils vont pouvoir faire prospérer leurs troupeaux. Et puis on regarde la suite, l'homme est toujours là, et ce bien se transforme en mal à son tour, parce que le peuple d'Israël prospère, etc., les rois changent, et puis tout d'un coup on commence à dire, attendez, ces gens-là, qu'est-ce que c'est que ces migrants qui viennent nous prendre, hein, qui viennent... Nous manger notre pain, et si ça continue, ils seraient même capables de se retourner contre nous. Et donc on les opprime, on les réduit en esclavage, et Dieu entend, et il va chercher quelqu'un là dans le désert, vous savez, il y a ce buisson ardent avec Moïse, qui voit quelque chose d'extraordinaire, et Dieu lui parle. Comment il lui parle, je ne sais pas, en quelle langue, j'en sais rien. Mais Moïse entend Dieu qui lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Et Moïse vient, et Moïse, le mal, cette succession de mal, de bien. Et à chaque fois, on a l'impression que Dieu retourne les choses pour que le mal se transforme en bien. Pour que ce qui devait se terminer par une condamnation, par quelque chose de terrible, va se terminer par une œuvre de grâce. Et donc Moïse va pouvoir libérer le peuple. Et après des pérégrinations longues, ils vont arriver dans le pays promis. Et puis l'histoire, on pourrait la continuer longtemps. Parce qu'en permanence, l'action de l'homme, malheureusement, ne va pas dans un sens d'améliorer les choses, mais Dieu, en permanence, transforme ça. Alors, nos vies sont, en général, moins romanesques que celles de Joseph, hein, heureusement, d'ailleurs. On vit des vies compliquées, certes, mais un petit peu moins que celles-là. Et pourtant, je pense que chacun d'entre nous, on peut bien réfléchir, et c'est de cette manière-là que Dieu nous parle. Je pourrais vous raconter des choses qui me concernent, on va pas forcément prendre le temps de cela, mais j'ai dans ma vie vécu des moments où on a l'impression que tout se retourne contre ce qu'on a bâti, tout s'écroule, et puis par la grâce de Dieu, après, des choses se mettent en place. Est-ce que Dieu a parlé plus fort à un moment qu'à un autre? Je ne sais pas. Mais est-ce que nous avons la capacité, nous, de lire dans ce que nous vivons l'action de Dieu pour nous? Parce que c'est ça qui est fondamental. Et lire, et on le vit peut-être mieux dans des moments où les choses vont bien que dans des moments de désespoir. On le vit mieux quand on est en bonne santé que quand il y a la pandémie qui nous oblige à être tous des demi-visages comme on est en ce moment. Mais n'empêche que Dieu parle en permanence et en permanence nous pouvons croire qu'il est là pour répandre sa grâce sur chacun d'entre nous. Le prophète Michée dit que nos fautes, Dieu va les mettre sous ses pieds et même qu'il va les jeter. C'est dans Michée, à la fin du livre du prophète Michée. Dieu ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la bienveillance, il aura compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, tu les jetteras au fond de la mer, tous nos péchés. Cette image-là, la mer, pour les peuples anciens, hein, c'était vraiment le symbole de l'abîme, parce qu'on n'avait pas encore les appareils qui permettaient d'aller voir au fond des mers. Donc ça paraissait un abîme sans fin, quoi. C'était le mettre au fond de la mer, ça veut dire mettre complètement, enfin faire disparaître de manière radicale et totale. Je crois que c'est cela que Dieu nous propose. Et moi, c'est ça que je lis dans cette parabole qu'on a vue tout à l'heure. Toutes les circonstances étaient réunies pour que la guerre continue, quoi. Hein, les vignerons, ils ont chopé les gens une fois, deux fois, trois fois, ils ont tué le fils. Donc tout était prêt pour qu'on envoie une armée et puis qu'on les réduise à néant. Et dans cette parabole-là, peut-être dans d'autres textes, les conclusions ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais dans cette parabole-là, ce que Jésus dit, non, il embraye sur autre chose. Il dit, mais attendez, ce que vous rejetez, ça va devenir ce sur quoi nous pouvons bâtir ce que Paul appelle le mystère de la réconciliation. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, donc là Paul parle pour lui, mais je pense qu'on peut s'associer à cela, qui nous a donné le service de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Et voilà, je pense, le sens de notre présence aussi sur la terre. Et le sens de ce que Jean-Haut soulignait tout à l'heure, ce texte de 2 Chroniques. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, il cherche ta face. Et si nous sommes vraiment dans cette disposition de dire, est-ce que nous pouvons nous associer à cette œuvre de grâce que Jésus a montrée parfaitement à la croix? Si nous vraiment nous agissons comme ça, nous agissons pour être dans le plan de Dieu et pour travailler avec lui à son œuvre et pour transformer, alors petitement, à notre échelle, dans nos petites vies de rien du tout, mais pour transformer tout ce mal en bien. Après que, donc, ce que dit Jean Chrysostome de cette parabole que je disais, après que les hommes aient refusé d'entendre celui qui leur avait, que Dieu leur avait envoyé, Dieu ne fait pas éclater sa colère, il ne les rejette pas, mais il persiste à les appeler par lui-même et par les gens qui prêchent. Qui donc ne s'émerveillerait pas devant tant de sollicitude? Dans la parabole, ils ont égorgé le Fils, venu les réconcilier. Lui, le Fils unique. Et le Père ne s'est pas détourné des meurtriers. Il n'a pas dit, je leur avais envoyé mon Fils. Non content de ne pas l'écouter, ils le mettent à mort, ils le crucifient, je les abandonne. C'est le contraire qu'il a fait. Et le Christ, ayant quitté la terre, dit Jean Chrysostome, c'est à nous de poursuivre ce ministère de la réconciliation. Quel amour qui surpasse toute parole et toute intelligence. Qui était l'insulté? Dieu lui-même. Qui a fait le premier pas vers la réconciliation? C'est lui. Si Dieu avait voulu nous en demander compte, nous étions tous perdus. Mais Dieu ne nous frappe pas de sa vengeance, et non content d'annuler notre dette, il la tient pour rien. Il l'annule et il déclare un non-lieu. Alors voilà ce qui me trottait dans la tête quand je préparais cette prédication. C'est que Dieu est constamment à l'œuvre et c'est ce Dieu-là que j'aime que nous ayons en tête, si j'ose dire, et que nous voyons et que nous puissions prêcher, annoncer. Et c'est pour ce Dieu-là que nous sommes sur la terre. Je crois que, vous savez, quand Paul écrit aux Galates, il leur dit, voilà, vous avez reçu cette parole, vous l'avez reçue avec joie, vous avez accueilli cette transformation de vos vies parce que vous avez accepté que Dieu est celui qui règne en maître sur vos vies. Et pourquoi vous êtes en train de compliquer les choses maintenant? Et je pense que souvent nous sommes, c'est nous qui mettons un frein à ce que la parole de Dieu et la grâce de Dieu nous emportent véritablement et nous aident à vivre une vie transformée. Nous sommes appelés à la liberté, comme les vignerons. Les vignerons, il leur avait été confié la totalité de la vigne, donc ils étaient appelés à la liberté, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'allons-nous en faire? Est-ce que nous allons, de cette liberté, produire du fruit qui sera profitable à tous? Ou est-ce qu'on va se l'accaparer pour nous? Est-ce qu'on va vouloir prendre la place de Dieu, décider à sa place? Est-ce qu'on va vouloir le remplacer dans nos vies et dans les vies autour de nous? Alors Dieu, oui, il parle encore. Il parle toujours aussi fort, et pandémie ou pas pandémie, Dieu parle, mais est-ce que nous sommes prêts à l'écouter, à nous laisser transformer et à accepter ce rôle qui nous est donné? Parce que encore, comme dans la parabole, Dieu veut investir en nous. Il investit en nous confiant le monde dans lequel nous sommes appelés à vivre, pour que notre parole puisse être une parole de transformation, et que ce que le monde rejette puisse véritablement devenir la pierre d'angle sur laquelle se construit l'avenir de l'humanité. Et on peut citer tous ces exemples dans l'Évangile, ces rencontres de Jésus où Zachée, qui était quand même mal vu, il a été transformé, il a cœur l'hospitalité. La femme pécheresse qui vient se prosterner aux pieds de Jésus, la femme adultère à qui Jésus dit finalement « Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Alors voilà, que le Seigneur nous aide vraiment à rester dans ce chemin de la réconciliation, pas dans celui de la vengeance, pas faire comme les vignerons qui condamnent. Et c'est vrai que le monde en ce moment, il y a des tas de choses sur lesquelles on pourrait parler, que certaines ont été évoquées déjà ce matin, la pandémie bien sûr, mais pas que ça, des choses horribles qui se commettent dans le monde, et là on peut chercher la raison, etc. Quelle va être notre attitude? Est-ce que nous allons nous aussi parler avec tous ceux qui crient vengeance? Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait une justice, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les fautes soient punies, entendons-nous bien, et nous jouissons de vivre dans un pays de droit où effectivement on peut avoir justice quand un tort est fait, et ça reste quand même, ça fait partie de l'organisation de nos vies, mais dans nos têtes, est-ce que nous condamnons définitivement ce qui se passe, ou est-ce que nous sommes toujours prêts à nous engager dans ce chemin de la réconciliation? Je termine avec ces quelques paroles de l'apôtre Paul dans l'épître, la première épître à Timothée. J'exhorte à faire des prières, des requêtes, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, et on l'a fait tout à l'heure, aussi pour les rois, pour ceux qui occupent une position supérieure. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Je vais vous inviter à la prière pour terminer ces paroles ensemble. Seigneur, dans ce temps étrange que nous vivons, nous voulons t'offrir nos désirs, nos peurs, nos projets, nos cris, tout ce qui autour de nous souffre, tous ceux qui autour de nous souffrent. Apprends-nous à te rencontrer, toi qui es vivant, dans les souffrances et dans les soifs d'un monde qui se cherche, toi qui parles comme tu as toujours parlé, toi qui tends la main comme tu as toujours tendu la main, et que nous puissions chacun dans nos vies, dans ce que nous avons à vivre, être vraiment pour nos contemporains le tremplin d'une espérance donnée à chacun, parce que nous aurons présenté cette réconciliation que tu proposes à tous les hommes, cette grâce infinie qui ne s'arrête jamais, que nous aurons su montrer que tu es un Dieu qui, en permanence, cherche à transformer le mal en bien, pour que autour de nous, les gens puissent comprendre les raisons profondes de notre existence sur terre. Seigneur, garde chacun de nous, nous te remettons aussi tous nos frères et sœurs qui souffrent en ce moment, qui sont vraiment en difficulté pour différentes raisons, qu'eux aussi puissent sentir que, malgré les temps compliqués, tu es à leur côté. Amen.